VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Abidjan, 13h à Bangui, bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique de l'Ouest. En Gambie, le président élu Adama Barrow se prépare à exercer le pouvoir. Il a annoncé lundi la formation d'un groupe d'experts pour formuler un plan de développement national. Bagassi Koura.
Selon un communiqué du président élu Adama Barrow, l'Agence pour un développement socio-économique durable, également dénommée ACED en anglais, va comprendre un noyau de 7 experts dans plusieurs domaines. Ils seront chargés de coordonner la mobilisation des experts devant préparer le plan de développement qui va remplacer celui du gouvernement sortant. Adama Barrow veut que son gouvernement soit, je cite, « immédiatement opérationnel ». Après son investiture le 19 janvier, il a en outre appelé les Gambiens à prier pour une transition pacifique. C'est que sa victoire à la présidentielle du 1er décembre reste toujours contestée par Yahya Jammeh, le président sortant qui a déposé un recours devant la Cour suprême pour l'annulation du scrutin.
En Côte d'Ivoire, multiples réactions aux déclarations de Pascal Affine Nguessan, leader d'une faction du FPI, le Front populaire ivoirien créé par l'ex-président Laurent Gbagbo. Déclarations selon lesquelles il faut se détacher de l'image du fondateur du parti qui constitue selon lui un handicap. Certains s'interrogent sur l'avenir politique d'Affine Nguessan et du FPI lui-même après la cuisante défaite du parti aux législatives du 18 décembre. Pour 186 candidats, le camp d'Affine Nguessan n'a obtenu que 3 sièges. Les frondeurs du FPI avaient choisi, eux, le boycott. Écoutez l'analyse de Julien Gauze, une personnalité de la société civile en Côte d'Ivoire.
Je l'aurais vu suivant son autocritique et son analyse, d'abord en se remettant lui-même en cause en partie, et ensuite en dénonçant certaines insuffisances au sein du parti, avant de justifier pourquoi peut-être il prend la décision soit de rester, soit de partir. Mais alors s'il décide de partir, il faut, je pense, le dire clairement, couper les amarres et s'installer à son compte de façon à ne pas s'aliéner toute une partie de ceux qui se reconnaissent dans le président Gbagbo. Ça s'apparente à un parricide dans ce qu'on peut considérer comme une espèce de réuniment et en même temps une invitation à tourner une page, mais alors d'une façon trop tragique peut-être, d'une façon trop brutale peut-être, d'une façon trop, je me permets de dire, un peu insultante.
Julien Gauze, président de l'ONG Agir pour la démocratie, la justice et la liberté en Côte d'Ivoire. Rétrospective 2016 maintenant, direction le Burkina Faso, où l'année qui s'achève a été marquée entre autres par la lutte contre le terrorisme. De Ouagadougou, les détails avec notre correspondant Zoumana Ronogo.
C'est dès les premiers jours de l'année passée que le Burkina Faso a connu son premier ministre et son gouvernement, qui, à peine installé, a fait son baptême du feu. Au propre comme au figuré. C'est le 15 janvier que les terroristes ont décidé de frapper le Burkina Faso. Revivons les faits avec le président du Faso, Roch Marc-Christian Kabouré.
D'abord, dans l'après-midi, dans le secteur d'Ilabao, dans la province de Loudala, un convoi officiel de la gendarmerie nationale a été attaqué, faisant 2 morts et 2 blessés. Ensuite, dans la soirée à Ouagadougou, à l'hôtel Splendid, à l'hôtel Yibi au café Cappuccino, une attaque armée suivie d'une prise d'otage a occasionné, selon un bilan provisoire, 28 morts, une cinquantaine de blessés civils. Toujours dans la nuit du 15 au 16 janvier, le docteur Kenneth Arthur Elliott et son épouse Jocelyne, de nationalité australienne, dans cette localité ont été enlevés.
Il a fallu donc se remobiliser pour ne pas céder au découragement et la libération de l'otage Jocelyne Elliott. Juste un mois après les attaques, il a joué un grand rôle. Réécoutons Madame Jocelyne Elliott.
Je suis très heureuse de trouver que je suis ici au milieu de la famille de Burkina. Et je veux remercier la population de Burkina aussi pour leur soutien pendant mon absence.
Comme pour saluer cette libération, le Burkina Faso a organisé la SNC, Semaine nationale de la culture, puis ont suivi les élections municipales. C'est dans ces entrefaites que le Front social s'est mis à bouillonner. Les médias d'État, les impôts et surtout la grève sans service minimum des agents de la santé. Or, juste avant, le ministre de la Santé déclarait.
Le ministère de la Santé a été alerté par une augmentation assez sensible donc du nombre de personnes qui présentaient des syndromes qui étaient similaires à ce qui ferait penser donc à la dengue. Malheureusement, le virus circule au Burkina Faso.
Tout cela n'a pas empêché l'organisation du CIAO, Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Revivons l'événement avec Dramane Tou, le commissaire général du CIAO.
L'édition 2007 du CIAO rassemble plus de 3000 exposants, 250 acheteurs professionnels avec la participation de 25 pays.
Attendu depuis très longtemps, les procès sur les grands dossiers ont commencé le 20 décembre, mais pas celui qui est le plus attendu, à savoir le push manqué du général Gilbert Diendéré et de Djibril Bassolé. Le Burkina Faso, malheureusement, a fini 2016 tout comme il l'a commencé. En effet, des terroristes s'en sont pris aux positions du groupement antiterroriste burkinabé basé à Nassoumbou. Le bilan fait état de 12 morts côté burkinabé. L'année 2016 aura été éprouvante à tout point de vue, mais dans cette épreuve dure, BOA Afrique a eu l'insigne honneur d'avoir le prix au JAP de la paix pour son traitement équilibré de l'information. Une fierté légitime qui est partagée avec toute l'équipe à la maison mère à Washington et avec l'ensemble des nombreux auditeurs de BOA Afrique. Sur ce, je dis bonne et heureuse année 2017 à tous. Que la paix et l'amour soient notre quotidien. Zoumana Ounougou, Ouagadougou, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique centrale, en RCA, polémique autour de l'idée d'un dialogue inclusif suggéré par l'ancien président François Bozizé. Son parti politique, le KNK, soutient cette initiative en la qualifiant de salutaire pour le pays. Écoutez son secrétaire général, Bertin Béa.
Si le président Bozizé est passé récemment à travers un mémorandum, c'est justement parce que nous nous rendons compte que nous sommes toujours dans un exercice d'auto-infantilisation et d'enlisement. Et donc il fallait donc faire une offre politique, une proposition politique, une idée politique. Et c'est ce qu'il a fait pour que les vrais Centrafricains, comme il le dit, parce que dans notre crise, il y a des étrangers qui s'y sont mêlés, et donc c'est l'occasion ou n'est-ce pas, que les Centrafricains puissent se retrouver.
Bertin Béa, secrétaire général du KNK. Côté pouvoir à Bangui, la réponse est une fin de non-recevoir au projet de l'ancien chef d'État. François Bozizé en exil à Nairobi depuis sa chute en 2013 est sous le coup de mandat d'arrêt émis par l'État centrafricain et il est aussi sous sanction de l'ONU. Le gouvernement centrafricain se veut clair. Pour l'instant, il n'envisage pas de dialogue avec des personnes sous sanction des juridictions nationales et internationales. Le point avec Théodore Djousseau, porte-parole du gouvernement.
Cela se fait à un certain nombre de conditions. Cela se fait lorsque les parties prenantes ne sont pas entachées des problèmes d'ordre judiciaire. Cela se fait lorsque les parties prenantes ne sont pas inscrites sur la liste des sanctions des Nations Unies ou bien font l'objet de poursuites au niveau de la Cour pénale internationale, au niveau de la Cour pénale spéciale ou au niveau des cours et tribunaux ici à Bangui même.
Théodore Djousseau, porte-parole du gouvernement centrafricain. Soudan du Sud, le nombre de Sud-Soudanais fuyant en Ouganda continue d'augmenter avec 7046 arrivants enregistrés le 13 décembre dernier selon l'agence humanitaire de l'ONU, OCHA. La majorité des réfugiés traversent la frontière par des points informels pour rejoindre l'Ouganda. Plus de 4000 d'entre eux se sont rendus en Ouganda via la République démocratique du Congo. Rappelons que des violences ont éclaté entre les forces rivales à Djouba, la capitale du Soudan du Sud, au mois de juillet, forçant des milliers de personnes à chercher refuge dans les pays voisins. Actualité hors d'Afrique, maintenant en Turquie, le premier procès à Istanbul de participants présumés au coup d'État manqué du 15 juillet s'est ouvert ce mardi. Une trentaine de policiers comparaissant pour avoir refusé de défendre le président Recep Tayyip Erdogan. Il s'agit du procès le plus important à ce jour depuis le coup d'État manqué, même si d'autres procès ont déjà commencé dans plusieurs villes du pays, où un total de 41 000 personnes avaient été arrêtées depuis le 15 juillet. Et pour terminer, en Irak, des combattants du groupe État islamique ont exécuté sommairement 13 habitants de deux villages du nord du pays, dont certains s'étaient soulevés contre eux aux premières heures de l'offensive de l'armée irakienne pour reprendre Mossoul. C'est ce qu'annonce ce mardi Human Rights Watch.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.